Cathy Bisraor est en ligne avec nous de Jérusalem. Bonsoir Cathy.
Bonsoir Bernard.
Cathy, on se pose une question aujourd'hui. On a bien entendu Benjamin Netanyahou qui dit « on ira jusqu'au bout ». Et on connaît la société israélienne et vous nous en avez beaucoup parlé. Et on se demande quand même combien de temps la société israélienne peut tenir avec des chiffres qui forcément s'additionnent. Et il se trouve des chiffres de soldats morts, je veux dire. Et il se trouve, et d'ailleurs pas seulement, tous les chiffres s'additionnent. Les parents ne peuvent pas envoyer les enfants à l'école dans le sud, ou au moins un jour sur deux. Mais surtout les soldats. Et on a vu que depuis le début des affrontements à Khan Younes, c'est beaucoup plus, c'est plus. Et là, cette nuit, c'est 10 morts par jour, c'est intenable. Cathy, est-ce que la société israélienne, d'après vous, avec votre expérience, avec votre intuition, est-ce qu'Israël peut tenir ?
Bernard, si vous m'aviez posé la question avant le 7 octobre, vous aurez répondu comme beaucoup de sociologues et d'Israéliens qui observent la société israélienne, qui auraient répondu, je ne sais pas, la génération de Instagram, de Facebook, du digital, du plaisir, etc. Non, ce n'est pas une génération qui est prête à se battre. Et regardez ce qui se passe aujourd'hui. Et la réponse que je vous donne, catégoriquement, ce n'est pas seulement moi qui la donne, mais c'est l'ensemble des observateurs de la société israélienne. La réponse, c'est oui. Et je vous cite un des jeunes soldats israéliens de l'unité de Golani qui a participé il y a quelques minutes à l'enterrement d'un de ses commandants qui est tombé hier lors de cet accident dramatique où 2 soldats israéliens ont été tués, dont 4 officiers. Un autre a été tué dans un autre accident. On lui a posé cette question. On lui a dit, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce que vous ressentez après que tellement de vos camarades ont été tués, d'autres blessés, 4 de vos commandants ? Et qu'est-ce qu'il a répondu, ce soldat de 19 ans, Bernard ? Il a dit, on serre les dents et on continue à se battre. Je crois que cette petite phrase de soldat, c'est pas seulement ce soldat qui le dit, c'est vraiment l'impression que l'on a ici en Israël. Bernard, je pense que vous devez l'entendre pas seulement de moi, mais de beaucoup d'observateurs, c'est exactement ce que dit ce soldat de 19 ans. C'est on serre les dents, on pleure, on est dans le deuil, okay, mais on continue. Et on entend ça non seulement de ce soldat, mais également les parents qui ont tenté leurs enfants. On entend ça dans tous les enterrements qui se sont succédés aujourd'hui, une journée évidemment dramatique. C'est ce message-là que l'on a entendu.
Il faut savoir que il y a un effort de guerre et que tout le monde est tendu vers cet effort de guerre, donc on pouvait s'attendre à votre réponse. Mais Cathy, je vais faire de la peine aux auditeurs, peut-être à vous, je m'en fais à moi. Le scénario en Irak a montré que ça ne s'arrête pas après la guerre. Hein. Fallujah, les Américains ont dit c'est pas tenable, on ne peut pas avoir des morts tous les jours. Après la guerre en Irak. Excusez-moi de vous dire ça, mais voilà, je voudrais avoir votre sentiment sur ça.
Écoutez, je crois que personne ici n'a d'illusion. C'est pas une guerre de quelques semaines ni de quelques mois. Lorsque vous parlez à des spécialistes de l'armée israélienne, pas évidemment des commandants qui, eux, doivent garder évidemment un certain langage discret. Quand vous parlez aux spécialistes, ils vous disent « c'est une question de quelques années ». C'est pas en quelques semaines, en quelques mois, qu'on va détruire à 100% une force terroriste tellement complexe qui a été construite pendant près de 17 ans. Pas possible. Maintenant, ce qui va se passer, c'est qu'il y a plusieurs étapes dans cette guerre. Il y a l'étape que l'on vit actuellement, okay, qui est la guerre, véritablement, aussi bien au nord qu'au sud de la bande de Gaza. Encore une fois, malgré l'incident dramatique, 10 soldats israéliens, dont 4 des commandants de l'armée israélienne ont été tués hier au nord de la bande de Gaza, Tzal continue à dire que le nord de la bande de Gaza est sous contrôle de l'armée israélienne et qu'on est dans une phase de nettoyage. Du nettoyage qui coûte très cher, on l'a vu avec cet incident où 10 soldats ont été tués, mais c'est cette phase-là. Et Israël contrôle le nord de la bande de Gaza et maintenant c'est le problème du sud. Et pour répondre à votre question, c'est pas une question qui va être... le contrôle de la bande de Gaza, la destruction totale du Hamas, c'est pas une question de quelques semaines, de quelques mois. C'est une question de longue haleine. On va se diriger, à mon avis, dans une situation, dans un modèle qui ressemble plus ou moins un petit peu à ce qui se passe en Judée et Samarie. Regardez ce qui se passe. C'est pas qu'en Judée et Samarie, il y a la paix. Tous les quelques jours, même c'est pas tous les quelques jours, c'est tous les jours, on entend une opération à Jenin, une opération à Ramallah, on rentre, on sort, il y a des blessés, etc. Ça va être la même chose. Mais c'est clair, et Netanyahou l'a dit d'une manière très claire, le contrôle de la sécurité de la bande de Gaza sera sous la responsabilité de Tsahal au moins pour quelques années. Et donc, c'est une affaire qui sera une affaire longue. Maintenant, pourquoi, à mon avis, Bernard, pour l'instant, les choses peuvent changer dans quelques temps, mais pour l'instant, si vous voulez, ce que l'on voit, c'est véritablement une capacité énorme de la société israélienne de serrer les dents, comme a dit ce soldat, parce qu'il s'agit d'une guerre, non pas d'une guerre existentielle, c'est pas l'existence de l'État d'Israël qui est en question, mais c'est clair que c'est une guerre qui est une des guerres les plus justes que Israël a menées, parce que un pays ne peut pas vivre avec une menace du type de ce qui s'est du pogrom de ce qui s'est passé le 7 octobre. Et donc, si vous voulez, c'est l'existence, l'essence même de l'État d'Israël pour les prochaines générations qui est actuellement en jeu. Et c'est pour ça, à mon avis, que l'impression que l'on a, non seulement au sein des soldats, mais au sein de la société israélienne, qui paye un prix très très lourd, 400 000 soldats sont sous les drapeaux, il faut se comprendre, des dizaines et dizaines de milliers de jeunes femmes seules avec leurs enfants, on ne parle pas beaucoup de ce sujet, mais on en parlera certainement. C'est une histoire qui est très compliquée, très complexe pour l'État d'Israël. C'est pour cela, à mon avis, parce qu'il y a véritablement le sentiment qu'il s'agit d'une guerre pour les prochaines générations, une guerre pour qu'Israël puisse continuer à exister. C'est pour cela qu'à mon avis, pour l'instant, on est dans une situation où, oui, la société israélienne est prête à assumer le prix dramatique de cette guerre.
Cathy, je vais vous faire écouter un son qui va totalement dans le sens de ce que vous êtes en train de dire, qui même illustre ce que vous êtes en train de dire. Il faut savoir que les soldats, ils ont 20 ans. Hein. Il y a les Milouim Nikim, mais donc les réservistes. Mais bon, bah d'ailleurs, celui qu'on va entendre, il a 20 ans. Et ça va totalement dans votre sens, mais encore une fois, ça déchire le cœur. Il est à Gaza, et il parle à ses hommes, donc lui, c'est un officier de 20 ans, 21, 22, et il leur dit « Mon frère est mort. Mon frère est mort dans la bande de Gaza, mais je vous dis un truc. » On va l'entendre là maintenant. Il lui dit, mais je vais vous dire un truc. On va pas porter le deuil. Mon frère est mort, mais on va pas porter le deuil. Demain matin, on continue la guerre. Cette nuit, on continue la guerre et on continue jusqu'à la victoire. Je vous propose d'écouter, c'est très court. Mon frère est mort. Mon frère, Eyal, est mort. Et là, on voit les soldats, on est en pleine nuit. Hein. Les soldats qui regardent, c'est pas pareil. Vous savez ce qu'on a dit aujourd'hui ? On va gagner. Vous savez, on l'a dit ou pas ? Oui. Alors, il n'y a pas de deuil aujourd'hui. Et on continue. Pas Stam. Hein. On est là. Et avec toutes les opportunités, Nenatsar, on va gagner. On va Nenatsar. Cathy, franchement, sont terribles.
Terrible, je suis d'accord avec vous. C'est un son terrible, mais vous savez, quand j'entends cette voix de ce soldat hein, qui a 20 ans, c'est vraiment la célèbre phrase que l'on connaît du livre de Samuel, du livre de Shmuel, « Netzar Israël, Lo Ishakar ». C'est exactement cette phrase-là de « Netzar Israël » que l'on a l'impression de vivre. Mais il faut que je dise un mot tout de même, Bernard, sur cette histoire d'hier, sur cet incident dramatique d'hier, où, vous savez, c'est dans les écoles, on apprendra cette affaire d'hier soir comme un des grands actes de bravoure, d'héroïsme qui se rajoute à tous les actes et bravoure d'héroïsme de l'armée israélienne où il y a quelque chose de spécifique. J'ai entendu dans des chaînes étrangères dire « Mais pourquoi il y a tellement de commandants qui ont été tués ?» Ben c'est bien ça. C'est que hier, lorsque 4 soldats israéliens ont été grièvement blessés, ensuite on s'est aperçu qu'ils étaient tués dans une embuscade, les commandants qui ont compris que ces 4 soldats allaient avaient un risque énorme d'être kidnappés, pris en otage par les Palestiniens. C'est eux qui sont venus en premier lieu. Ils ont dit « Aharaï, après moi, après nous ». Et c'est pour ça qu'ils sont ensuite entrés dans cette maison. Et ensuite, il y a eu deux autres explosions. Et c'est comme ça que les commandants ont été tués. Et je crois que le fait, si vous voulez, que les commandants de l'armée israélienne, de haut rang, qui ont été tués hier pendant pendant les combats, c'est vraiment l'exemple c'est l'exemple et l'esprit, si vous voulez, même de Tsahal. Au lieu que l'état d'esprit soit au plus bas, exactement, c'est exactement le contraire que l'on a entendu tout au long de la journée. Je peux vous dire que même moi, j'étais surprise à tel point d'entendre des soldats interviewés et dire, nos commandants, ils nous ont donné l'exemple. Ils ont été, eux, au combat, et nous aussi, on continuera jusqu'au succès, parce que, justement, Netzar, Israël, Oishaka, et je crois qu'il y a beaucoup de leçons de morale pour l'ensemble, en fait, du monde israélien, si on se rappelle à ce qui était la société israélienne avant le 7 octobre. Le 6 octobre, on découvre, en fin de compte, une toute autre jeunesse depuis le 7 octobre, depuis ces combats. Un tout autre état d'esprit de ces jeunes Israéliens.
Ah oui, oui. Par exemple, on voit la rêve, on se dit, les gars, la rêve, ils fument des joints, ils vont... Et vous découvrez, après le 7 octobre, un, il est Givati, l'autre, il est Golani, et les survivants de la rêve. Et là, ils sont en train de se battre à Gaza pour venger leurs copains qui sont morts durant la rêve partie dans le désert. C'est vrai, c'est très important cette génération.
Je vais vous rajouter autre chose que le porte-parole de Tzal a raconté, et qui est à mon avis une histoire incroyable. C'est qu'il s'avère que vous avez des centaines et centaines de Bernard, de jeunes Israéliens, qui n'ont pas encore été mobilisés, soit qui ont fini leur service militaire pendant ces deux mois, enfin depuis le 7 octobre, et qui sont à la porte, qui demandent d'être mobilisés. C'est-à-dire que, si vous voulez, il y a véritablement quelque chose qui se passe au sein de la société israélienne où l'on croyait que se battre, c'était plus possible pour Israël, et beaucoup disaient que c'est quelque part la fin d'Israël. Si Israël n'est pas capable de se battre, les Israéliens ne sont pas capables de se battre lorsqu'on habite au Moyen-Orient. Et en fait, vous voyez exactement le contraire, c'est en fait l'esprit de la guerre d'indépendance, l'esprit de la guerre des six jours, l'esprit d'un TB que l'on voit renaître ces dernières semaines en Israël.
Tout à fait d'accord. J'ai autour de moi des mamans, des copains, et qui me disent « mon fils est à Gaza ». Et donc, évidemment, on a tous une tête très préoccupée quand on est quand on pense à ça. Mais les enfants, ils disent, t'inquiète pas, maman. Hein. Ils sont sur les WhatsApp ou quand ils peuvent parler au téléphone, pas toujours. Eux, ils sont pas dans cet esprit, eux. C'est sûr que c'est devenu une affaire de jeunes. Pas seulement. Mais c'est sûr que les jeunes ont pris cette affaire en main. Et ont décidé que, voilà, tout ce qu'on vient de dire maintenant, on va, par exemple, y compris par rapport à ce que vous venez de dire, ce sera ma dernière question, ou ma dernière relance, je ne sais pas comment dire, ma dernière manière de vous tendre le micro. Mais le jeune là qu'on a entendu qui parle, d'ailleurs en face de lui, moi, il y avait un gamin, il avait 19 ans. Il a dit, son frère qui est mort, donc son grand frère, est mort en même temps que le fils de l'ancien chef d'état-major. Et tout correspond à ce que vous venez de dire. D'abord déjà, l'ancien chef d'état-major, Gabi Eisenkot, son fils meurt à Gaza. Il rentre à la maison. Il apprend que c'est le fils, c'est son neveu qui est mort. Il y en a deux en 48 heures. Mais que faisait ce gars-là qui est mort avec le grand frère de celui qu'on vient d'entendre? Ils étaient en train d'essayer de récupérer les corps de deux otages israéliens. C'est pendant cette opération-là qu'ils ont trouvé la mort. Toute cette histoire, en même temps, cette histoire, c'est sûr, est dramatique dans le sens où elle nous dépasse, mais elle est vraiment terrible. Hein. C'est ce qu'on est en train de se dire, c'est les bras m'en tombent, hein, Cathy.
Oui, écoutez, je crois qu'on peut que dire, que confirmer que il y a des actes de ces jeunes Israéliens, pas seulement jeunes, hein, parce que parmi les officiers d'hier, il y a un homme de 44 ans qui a été tué, père de 6 enfants et un 7e, sa femme est enceinte. Mais si vous voulez, on s'aperçoit, on découvre véritablement, à mon avis, ces dernières semaines, une image de la jeunesse israélienne, des soldats israéliens, que on pensait avoir disparu. On pensait que ça n'existait plus. Et ça inquiétait énormément, évidemment, encore pour l'avenir de l'État d'Israël. Et en fin de compte, on s'aperçoit aujourd'hui que le Hamas, s'il a cru que le 7 octobre, il allait mettre un coup fatal à la société israélienne, divisée, brisée, etc. En fin de compte, regardez ce qui s'est passé. Le Hamas a fait exactement le contraire. En fin de compte, l'affaire du 7 octobre, ça a réveillé la bravoure, l'héroïsme, le volontariat, la volonté de se lutter pour l'État d'Israël, comme au début de l'État d'Israël. Et c'est en fin de compte ça qu'a fait le Hamas au lieu de détruire, heureusement, la société israélienne.
Cathy, je vous remercie. Vous êtes en direct de Jérusalem. J'ai la liste là sous les yeux hein, de ceux qui sont tombés cette nuit. Tomer Greenberg, 35 ans. Roy Maldassi, 23 ans. Moshe Avram, je ne vais pas donner tous les noms, 23 ans, 19 ans, 22 ans, 26 ans, 20 ans, 19 ans. Voilà. Ça fait mal au cœur, hein, quand même. Cathy Bisraor, merci. Ah, il faudra aussi que vous veniez nous parler de Me Too Unless You're a Jew, parce que je voudrais dire aux auditeurs que vous avez un rôle actif dans cette association qui dit, donc il y a Me Too pour toutes les femmes à travers la planète. Ah, il y a juste une exception. Les Juives. Donc le 7 octobre, les prises d'otages, là, il n'y a plus personne, il n'y a plus de mouvement international. Donc Cathy, j'espère que vous viendrez nous parler de ce beau mouvement de solidarité avec les femmes otages et les
Absolument.
Femmes qui ont été... C'est notre invité. Et merci à vous. Bonsoir.
Bonsoir,
Chag Sameach. Chag Sameach, Hanukkah Sameach. On se retrouve dans un instant pour la suite de cette édition.